Ténébreuse, c'est une histoire un petit peu d'une rencontre amoureuse entre un chevalier, on va dire, on est vraiment dans le conte classique au départ, hein, un chevalier, le château, la princesse, le chevalier va sortir la princesse, et très vite, en fait, on sort de l'histoire. Ça, c'était une vraie volonté de notre part de dire on démarre sur un conte classique et on part tout de suite sur autre chose. Et du coup, Islaine avec sa couronne de papillons, ça fait partie, on va dire, des thématiques de l'histoire symbolisées par, on va dire, le poids familial de son côté et de l'héritage de la famille et de comment, en fait, on peut se construire personnellement, que ce soit elle ou lui, avec le poids du passé et de la famille qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, quoi. Et ça, c'est vraiment, on va dire, sur le tome 1, on va être pas mal autour de Islaine et de d'où elle vient, de qui elle est et pourquoi cette couronne de papillon, cette mystérieuse couronne de papillon qui a l'air assez jolie quand on la voit au premier coup d'œil, mais qui la quitte jamais. Et dans le tome 2, on ira un petit peu plus aussi sur Arzur, le chevalier, savoir lui, en fait, il a une faute qu'on ne connaît pas. Savoir d'où il vient et pourquoi il en est là. Chaque personnage a ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc, c'est vraiment d'avoir des personnages attachants et qu'on ait envie de suivre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre le lecteur par la main et de l'emmener dans l'histoire et qu'il lâche plus l'histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout auteur de BD souhaite faire. C'est normal, c'est évident, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec Régis Loisel, tu vois, en travaillant avec lui. C'est que lui, il a vraiment ce talent-là de pouvoir, on va dire, trouver la porte d'entrée. Je sais que quand je travaillais, quand on faisait le Grand Mort, c'est vraiment typiquement un récit contemporain et fantastique. Et il y a toute une partie même qui se passe dans un monde complètement imaginaire. Et le nombre de fois où des gens me disaient, oui, mais moi, j'aime pas trop quand c'est de la science-fiction, quand c'est imaginaire, quand c'est life fantasy. Et je leur disais, attaquer le Grand Mort, j'étais quasi sûr qu'on démarre par une histoire qui se passe en Bretagne à notre époque et qui petit à petit va se décaler. Et c'est vraiment la force, par exemple, du récit du Grand Mort où en général, les gens qui attaquaient. Cette histoire ne la lâchait pas du tout jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris là-dessus, sur cette série, et que j'ai voulu vraiment, pas appliquer, parce que ce n'est pas une recette, mais en tout cas, qu'il y ait une vraie volonté de prendre le lecteur justement de manière très intelligente, donc comme quelqu'un d'intelligent, et du coup, de lui dire, bah, on va travailler l'histoire pour qu'il y ait une vraie porte d'entrée, enfin, toi, et qu'après, la personne puisse vraiment. Rentrer dans l'histoire, dans l'intimité des lieux, des personnages et des enjeux. Moi, quand j'ai fait les deux albums de La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est un incroyable terrain de jeu. C'est un super. Il y a des règles, on est sur un terrain limité parce que effectivement, les choses ont été mises en place par les dessinateurs avant. Mais c'est vraiment, ouais, voilà, je peux pas dire mieux qu'un terrain de jeu incroyable et c'est vraiment c'est l'opportunité là de pouvoir faire l'album que je rêvais d'avoir quand j'étais adolescent, moi-même lecteur de La Quête, de pouvoir faire les épisodes avec le Rige, ça a été super, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est pareil, il fallait s'inscrire dans une tradition d'histoire où La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est quelque chose d'assez universel, quoi. Tous les gens qui ont lu ça ont été marqués par cette histoire. Et il fallait voilà, être à la hauteur, j'en sais rien, mais en tout cas, essayer de tout faire pour ne pas décevoir et que le dessin soit vraiment au service de l'histoire.